Bonjour à toutes et tous. Merci Daniel, merci Brigitte, merci Théa pour ce temps qui, oui, je pense, nous a parlé. Et le texte de la Bible que l'on va lire ensemble ce matin va faire écho par différents aspects à ce combat spirituel dont on a parlé, où nous avons des adversaires, un adversaire redoutable, mais où nous pouvons compter sur l'aide de Dieu. Et le texte qu'on va partager va parler plutôt aussi de nos relations entre nous, de notre rôle d'être humain, de notre place dans la société. Dans 12 mois, la France aura un nouveau ou une nouvelle président de la République. Et donc, voilà, c'est une autre forme de combat, un combat politique qui s'annonce dans les 12 prochains mois. Je ne sais pas si on se réjouit à l'avance ou pas de tous les discours, mais on va commencer par un petit quiz justement de culture politique pour ceux qui aiment suivre ce genre de sujet, et pour les frères et sœurs qui viennent de l'étranger, comme ça, ça vous fera un peu aussi découvrir cet aspect de la vie française. Et pour les collégiens qui sont avec nous, il y a Sylviane qui distribue un petit questionnaire avec 10 questions. Ceux qui le souhaitent, il y en a 3 qui sont là-haut. Donc écoutez bien, voilà, ne restez pas sur vos téléphones pendant la prédication. Écoutez et vous venez me voir à la fin et j'ai un sachet plein de super bonnes choses pour vous. Daniel, il n'en avait pas, mais c'était moi qui les avais en fait. Voilà. Alors, petit quiz sur les slogans politiques. Il faut que je... Hop, voilà. Alors, ça, c'est le premier, c'est pour les seniors. Campagne de 1981, François Mitterrand. Quel était le slogan? Ah, la force tranquille. Pardon? Tu viendras me voir après? Oui, un bonbon pour Dominique. 14 ans plus tard, Jacques Chirac, 1995. Alors, c'était manger des pommes, ça c'était le détournement, mais c'était pas le slogan de départ. Est-ce que vous en rappelez? La France pour tous. La France pour tous. Et 17 ans après, 2012, là les collégiens vous étiez nés normalement, François Hollande, est-ce que vous vous rappelez du slogan ou du... Bravo Christine. Le changement, c'est maintenant. Alors, je vous rassure, on ne va pas parler du voilà, sous-entendu, hein, si on vote pour ce candidat, il va y avoir des changements importants dont le pays a besoin. On va pas débriefer le quinquennat de François Hollande ce matin, mais c'est vrai qu'il y a des décisions qu'on prend en tant que citoyen quand on vote, mais aussi dans nos vies, qui ont des conséquences, qui changent nos vies de manière profonde. Choisir un métier, choisir des études, choisir une église, choisir un lieu de vie, choisir un conjoint. Voilà, là le changement c'est maintenant. On a un changement visible, direct. Et qu'en est-il de la décision la plus importante qu'on peut prendre dans la vie? La décision de devenir disciple de Jésus-Christ. La décision de lui confier notre vie, de mettre notre confiance en lui. Alors, on a déjà entendu dans la présidence qu'il y a des conséquences très concrètes. On rentre dans un combat spirituel. Et les changements qui découlent de ce choix, quand on devient chrétien, ils sont considérables. Ce n'est pas que dans ce qu'on croit, c'est aussi dans notre vie de tous les jours. Et il y a un jeu de... Par un effet de domino, ça touche tous les aspects de notre vie. Alors ça, on le sait, mais concrètement, à quoi ça peut ressembler? Une vie changée, une vie transformée. Est-ce que tout change tout de suite? Est-ce que le changement, c'est maintenant complet, radical? Pour tout changer, sauveur parfait, c'est ce qu'on vient de chanter. Vaste sujet. Et on va essayer de le regarder à travers un cas concret qu'on trouve dans la Bible. Et pour ceux d'entre vous qui étaient venus pour écouter une prédication sur David, je suis désolé de vous décevoir, mais ce ne sera pas du roi David dont on va parler, parce qu'il y a eu un échange. C'est Jean-Pierre Boissonnat qui devait prêcher ce matin, on a échangé. Et vous écouterez Jean-Pierre dans 2 semaines. dans la série sur le roi David. Non, nous, on va rester dans le Nouveau Testament ce matin, on va même rester avec l'apôtre Paul dans une de ses lettres. La plupart des lettres qu'il a écrites, comme celles qu'on a lues aux Corinthiens, aux Éphésiens, il les a écrites à des églises, à des groupes de croyants, mais on trouve une lettre très personnelle. Une lettre que Paul a écrite à un de ses amis, la lettre à Philémon. Philémon, c'est un croyant qui vivait dans la ville de Colosse. Colosse, c'est la ville qui est entourée en rouge. On est en plein dans l'Empire romain. Donc l'Empire romain, il était très très vaste, et là on était dans l'Empire romain. Il ne reste rien du tout de cette ville. On a fait un petit tour là-bas en 2010 en famille. C'est vrai qu'il n'y a rien du tout. C'est comme un champ. Et des fouilles ont commencé l'année dernière. Donc voilà. C'est une ville antique qui n'a jamais été fouillée. Et petite parenthèse, il y aura sans doute peut-être des choses intéressantes qu'on pourra apprendre sur la ville de Colosse dans les années à venir. Philémon, c'était un homme qui était riche. C'était un homme qui avait notamment des esclaves. Et c'est un homme qui avait une grande maison, parce que c'est dans sa maison que l'Église se réunissait. Il avait des esclaves, et on en connaît un, Onésime. À l'époque de la lettre que Paul écrit à Philémon, vers l'an 60-62, l'esclavage était quelque chose de très courant dans l'Empire romain. C'était même un des fondements, en fait, de la vie économique de l'Empire romain. Voilà ce que écrit un grand historien français qui s'appelle Marc Bloch à propos de l'esclavage à l'époque romaine. Dans le monde romain des premiers siècles, l'esclave était partout. Au champ, à la boutique, à l'atelier, à l'office. Les riches en entretenaient des centaines ou des milliers. Il fallait être bien pauvre pour en posséder au moins un. C'est important de se le rappeler parce que quand on parle d'esclavage, souvent on va avoir en tête l'esclavage qui a été pratiqué plus récemment, notamment par la France, par la Grande-Bretagne, l'esclavage des populations africaines qui ont été déportées dans les colonies, au Brésil, dans les Antilles, aux États-Unis, et où les esclaves travaillaient surtout et quasiment essentiellement dans les champs. À l'époque romaine, les esclaves, ils étaient partout, dans tous les aspects de la vie sociale. Lisons ensemble ce texte, donc on va lire un livre de la Bible, un livre sur 66, là, ce matin, dans la version Semeur. Paul, le prisonnier de Jésus-Christ, et Timothée, notre frère, salue Philémon, notre cher ami et notre collaborateur, ainsi qu'Appia, notre sœur, Archippe, notre compagnon d'armes, et l'Église qui s'assemble dans ta maison. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Je ne cesse d'exprimer ma reconnaissance à Dieu lorsque je fais mention de toi dans mes prières, car j'entends parler de l'amour et de la confiance que tu as envers le Seigneur Jésus et envers tous ceux qui lui appartiennent. Je demande à Dieu que la solidarité qui nous unit à cause de ta foi se traduise en actes et qu'ainsi tout le bien que nous t'aurons amené à faire pour le Christ soit rendu manifeste. Car j'ai éprouvé une grande joie et un grand encouragement en apprenant comment tu mets ton amour en pratique. Frère, tu as en effet réconforté le cœur de ceux qui appartiennent à Dieu. C'est pourquoi, malgré toute la liberté que le Christ me donne de te prescrire son devoir, je préfère t'adresser cette demande au nom de l'amour, étant ce que je suis, moi, Paul, un vieillard et de plus maintenant un prisonnier à cause de Jésus-Christ. Je t'adresse cette demande au sujet de mon enfant, Onésime, dont je suis devenu le père spirituel ici en prison. Autrefois, il t'était inutile, mais maintenant, il est utile à toi comme à moi. Je te le renvoie donc, lui qui est devenu comme une partie de moi-même. Personnellement, je l'aurais volontiers gardé auprès de moi. Il aurait pu ainsi me rendre service à ta place, alors que je suis en prison à cause de la bonne nouvelle. Je n'ai cependant rien voulu entreprendre sans ton assentiment, pour que le bienfait que tu m'aurais ainsi accordé ne soit pas forcé, même en apparence, mais entièrement volontaire. D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un peu de temps, afin que tu le retrouves pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. Il l'est tellement pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur ? Par solidarité envers moi, accueille-le comme s'il s'agissait de moi-même. Si tu as été lésé par lui, ou s'il te doit quelque chose, porte cela sur mon compte. J'écris ce qui suit de ma propre main. Moi, Paul, je te rembourserai ses dettes. Et je ne veux pas te rappeler ici que toi aussi, tu as une dette à mon égard. C'est ta propre personne. Oui, frère, fais-moi cette faveur à cause du Seigneur. Réconforte mon cœur pour l'amour du Christ. Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente. Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. En même temps, prépare-moi une chambre, j'ai bon espoir de vous être rendu bientôt en réponse à vos prières. Epaphras, qui est en prison avec moi à cause de Jésus-Christ, te fait bien saluer, de même que Marc, Aristarque, Démas et Luc, mes collaborateurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde la grâce. Voilà pour cette lettre que Paul écrit à un de ses amis. Philémon le maître, Onésime l'esclave, entre eux la relation est brisée. L'esclave, Onésime, a quitté son maître, sûrement fâché, en mauvais termes, et de toute évidence, il a pris de l'argent, ou il a pris des objets précieux, quand il est parti. Onésime, il est parti, il a fui dans la grande ville la plus proche, qui est Éphèse. On suppose que Paul était à Éphèse, alors il y a des discussions, est-ce qu'il était à Rome, est-ce qu'il était à Éphèse, mais la plupart des commentateurs pensent que Paul était à Éphèse, à une centaine de kilomètres, 150 kilomètres de Colosse. Comment est-ce qu'Onésime a rencontré Paul ? On suppose qu'il savait que son maître était devenu chrétien, que Paul avait été celui qui avait conduit Philémon à la foi, et donc il est allé trouver l'ami de son maître. Et dans ce contexte, Onésime est devenu un disciple de Jésus. Là, on aurait pu en rester là d'une certaine manière. Paul avait quelqu'un d'autre, un nouveau collaborateur, qui était devenu chrétien. La vie continue d'une certaine manière, mais non. Pour l'apôtre Paul, la situation ne peut pas rester bloquée là où elle est actuellement, de cette relation brisée. Et donc Paul écrit deux lettres. Il écrit une lettre aux chrétiens de Colosse, c'était la lettre aux Colossiens qu'on a dans nos Bibles, et en même temps, peut-être le jour même ou la même semaine, il écrit cette lettre qu'on a lue. Et il donne ces deux lettres à un de ses collaborateurs qui s'appelle Tychique. Donc on trouve ça dans la lettre aux Colossiens, il dit voilà, je te donne ces deux parchemins, maintenant tu vas faire les 150 kilomètres, mais tu ne vas pas les faire tout seul, quelqu'un va venir avec toi. À votre avis, qui ça ? Onésime. Onésime, tu vas retourner chez Philémon, tu vas retourner à Colosse avec la lettre d'accompagnement que je te donne. Ça pour Onésime, le changement c'est maintenant là. Ouais. Et dans la lettre qu'on vient de lire, Paul parle de cette relation entre esclave et maître, mais il parle aussi plus globalement des changements, des transformations qui interviennent quand on croit en Jésus. On va voir rapidement trois aspects dans lesquels nos vies voient des changements, des transformations. Croire en Jésus, ça change, ça transforme nos relations. Croire en Jésus, ça change, ça transforme notre regard sur les circonstances difficiles. Croire en Jésus, ça change les structures mauvaises de la société. Tout un programme. En matière de relations, tout d'abord, on voit dans cette lettre trois personnes. Une forme de relation en triangle. Trois hommes qui sont connectés. La relation la plus ancienne qu'on voit ici, c'est celle entre Paul et Philémon. Et ce qui me frappe ici, c'est le tact, l'amour que manifeste Paul à son égard. Paul, c'est quand même à cette époque-là un vétéran, un apôtre qui a parcouru l'Europe, qui a créé des églises, qui a fondé des églises. Et il aurait tout à fait la légitimité de dire « Je t'informe que ton esclave est venu chez moi, il s'est converti, le problème est réglé, pardonne-le, pardonne-lui ». Et il reste à mes côtés en tant que serviteur. Mais Paul refuse d'user de son autorité. Alors on n'est pas naïf, on a bien noté que Paul argumente. Paul, il défend son point de vue. Il lui dit, je suis en prison, moi je suis serviteur de Dieu, et n'oublie pas ce que je te dois, ce que tu me dois, pardon. Paul cherche à convaincre, mais il cherche à convaincre avec amour et respect. Je trouve que c'est un bel exemple de la manière, et notamment pour nous, responsables, je regarde Daniel, je regarde Dominique, voilà, les responsables de l'Église, une manière de vivre les relations avec amour et respect. Paul, il sait aussi utiliser l'autorité. Si vous lisez la lettre de Paul aux églises de Corinthe, là, on est dans il y a des reproches qui sont faits aux chrétiens de Corinthe. Mais j'ai envie de dire que c'est le mode exceptionnel de fonctionnement. La règle, c'est celle d'une relation d'amour, de respect qui laisse les frères et sœurs libres de prendre des décisions, libres et responsables de leur choix. Donc ça, c'est le premier côté du triangle. Le deuxième, c'est la relation entre Paul et Onésime. Ils ne se connaissaient pas. Et la manière dont Paul parle de cette... on ne sait pas quel âge il a, hein, peut-être que c'est un homme déjà d'âge mûr, mais je trouve que c'est très émouvant. Paul, le vétéran de l'Évangile, il a pris sous son aile Onésime et il le considère comme son enfant, son fils spirituel. Il y a une relation très étroite qui s'est nouée. Peut-être qu'à l'époque, il y avait l'équivalent du parcours alpha. Alors, il lui a fait un parcours alpha prison, où la grande histoire, il lui a expliqué le plan du salut et Onésime a été touché par la grâce. Voilà aussi une relation nouvelle qu'on peut vivre aussi, nous, chacun à notre niveau. Peut-être que ça vous est arrivé déjà, hein, d'être comme ça un instrument de Dieu dans le cheminement de quelqu'un qui découvre la foi. Et il n'y a pas d'âge. Voilà, je sais qu'il y a des jeunes du groupe A3, par exemple, qui ont eu ce rôle-là. On peut être très tôt un Paul avec être comme cette relation de Paul avec Onésime. Deux beaux exemples de relations, hein, qui fonctionnent bien, j'ai envie de dire. Philémon et Paul qui sont collaborateurs avec de l'amour, du respect. Paul et Onésime, fils spirituel, père spirituel. Et le troisième côté du triangle, lui, par contre, il est brisé. Cette relation-là est une relation compliquée. Et on va, pour le reste de notre méditation, pour le reste de notre prédication, nous attarder sur cette relation entre Philémon et Onésime. Onésime est devenu croyant. Une nouvelle relation s'est créée. Le statut de frère s'est rajouté au statut d'esclave. C'est ce que dit Paul au verset 16, lorsqu'il parle à Philémon. Il dit « Afin que tu retrouves Onésime pour toujours, non plus comme un esclave, mais bien mieux qu'un esclave, comme un frère très cher. » Le fait qu'Onésime devienne frère de Philémon, ça transforme leur relation. C'est un fait. Paul dit « Il est ton frère, ça y est, c'est effectif. » Et pourtant, la relation est rompue. Alors, comment avancer? Pour avancer, il y a deux choses qu'il faut regarder. La première, c'est que ce schéma en triangle, il est incomplet. En fait, il faut rajouter un quatrième point. Et là, je me tourne vers les collégiens qui passent le brevet. Là, il y en a trois là-haut. Là. Comment est-ce qu'on appelle? Donc là, hop, je rajoute un point là. Comment appelle-t-on en géométrie la figure d'une pyramide avec avec que des triangles équilatéraux? Ça a un nom particulier, cette figure. Timothée, Christophe. Ouais. Un prisme. Alors non, c'est un tétra. Oh, on applaudit Miss Gana. Un tétraèdre. Voilà. En fait, la relation Philémon-Paul-Onésime, elle s'inscrit dans ce tétraèdre. Et quel est le nom qu'il faut mettre tout en haut? Jésus. Ouais. Jésus. La relation, le triangle Philémon-Paul-Onésime, il prend vraiment de sens que si on rajoute ces liens entre Jésus et Philémon, Jésus et Paul, Jésus et Onésime. Dans cette lettre, il y a deux verbes qui reviennent très régulièrement. C'est le verbe « accueillir » et « être en communion ». Et ce que Paul dit à Philémon, c'est « Jésus t'a accueilli, Jésus est en communion avec toi, toi aussi, accueille Onésime, toi aussi, cette communion doit être rétablie, restaurée en Jésus. Et c'est ce qu'il souligne. Il l'est tellement pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi en tant qu'homme et en tant que frère dans le Seigneur. On n'est pas frère et sœur parce qu'on s'aime bien. Alors on s'aime bien, hein. Mais on n'est pas frère et sœur parce qu'on aime bien passer du temps ensemble. On n'est pas frère et sœur parce qu'on a choisi. On est frère et sœur parce que Jésus nous a choisis. Parce qu'on est dans ce tétraèdre. Alors nous, voilà, Philémon, Onésime et Paul sont morts. Mais on pourrait rajouter Brigitte, Patricia, Christelle, par exemple. Et il y a des milliards de lignes qui partent de Jésus et qui créent cette relation de fraternité entre nous. Oui, ça c'est le premier point. Nous sommes unis en Jésus. Et c'est en Jésus que la réconciliation va pouvoir être envisagée. Le deuxième point à avoir à l'esprit pour Onésime qui est en train de marcher vers Colosse, c'est le petit mot que Paul utilise au verset 15 et qui va en fait être, qui va nous emmener sur la deuxième partie, le deuxième point, le regard différent sur les circonstances difficiles. Ce petit mot, c'est le mot « peut-être ». D'ailleurs, qui sait, peut-être Onésime a-t-il été séparé de toi pour un temps afin que tu le retrouves pour toujours. Avec ce mot « peut-être », je pense que Paul, ici, il ouvre une possibilité à Philémon de comprendre différemment ce qu'il a vécu avec Onésime, cet esclave qui est visiblement à la volée, qui est parti. Avec ce « peut-être », Paul laisse entendre que, oui, Dieu a conduit les choses de telle manière qu'à travers cet épisode, à travers ce conflit, à travers ce départ d'Onésime, Onésime a eu l'occasion de rencontrer Jésus, a eu l'occasion de devenir disciple de Christ. Et que c'est à travers cette épreuve qu'Onésime est devenu le frère de Philémon. Ce mot de peut-être, il ouvre la porte à ce qu'on appelle la providence de Dieu. Alors c'est un terme un peu compliqué, la providence. C'est un terme qui sonne un peu catholique aussi à nos oreilles de protestants. Mais en fait, ce n'est pas du tout un terme catholique. C'est un terme qui n'est pas présent dans la Bible, mais c'est un terme qui est dans la réalité. Nous est enseigné dans l'ensemble de la parole de Dieu. Voilà une définition, par exemple, qu'on va trouver dans le grand dictionnaire de la Bible, que vous pouvez trouver à la maison de la Bible. Voilà. La providence, c'est la façon permanente. Alors, c'est une phrase un peu compliquée, hein, mais la providence, c'est la façon permanente dont le Dieu créateur agit avec bonté et bienveillance pour maintenir l'ordre créationnel, diriger et gérer les événements, les circonstances et les actes libres, et conduire toute chose vers l'accomplissement qu'il a choisi pour sa gloire. La providence, c'est Dieu qui guide les événements. Et ce que dit Paul ici, c'est que cette relation compliquée de Philémon et Onésime, elle s'inscrit dans la providence de Dieu. Elle n'échappe pas à l'action de Dieu. Lors de son intervention, Brigitte a posé la question. Est-ce que tu vis des circonstances difficiles, des épreuves, des combats? Peut-être que c'est lié à une relation brisée aussi, comme celle de Philémon et d'Onésime. Je ne sais pas ce que vous avez répondu dans votre cœur pendant ce temps de témoignage et de prière, mais quelle que soit la réponse apportée, sachez que, oui, cette circonstance, cette difficulté, cette épreuve, ce combat n'échappe pas à la providence de Dieu et qu'on peut avancer en lui faisant confiance. Comme Onésime qui a pris son sac et qui a commencé à marcher pour retourner vers Philémon. Mais cette démarche de s'en remettre à la providence de Dieu, elle ne nous rend pas passifs. Et Onésime, il a dû se mettre en route, hein. Et elle génère de l'inconfort et elle génère de l'incertitude. Pour Paul, c'est inconfortable et incertain. Il aurait voulu garder Onésime avec lui. Là, il va devoir le laisser partir pendant plusieurs semaines, sans doute. Et Paul, vous l'avez noté, hein, il se porte garant des dettes d'Onésime. Donc, Paul, il a sorti le chéquier. Hein, voilà, c'est pas que de la théorie. Il ne s'est pas contenté d'une petite lettre en disant « Accueille-le, s'il te plaît ». Non, non, il paye de sa personne. C'est inconfortable, c'est incertain pour Onésime. Il n'y avait pas de WhatsApp. Hein. Paul, il ne pouvait pas dire « Je te préviens, il y a Onésime qui arrive, s'il te plaît, il y a une lettre, t'énerve pas tout de suite quand tu le vois ». Voilà, la porte s'ouvre, il y a l'esclave qui revient. À l'époque, un maître avait droit de vie ou de mort pour un esclave qui s'est enfui comme Onésime. La punition pouvait être absolument majeure. Et s'il y avait d'autres esclaves, c'était l'occasion de faire un exemple aussi. Et c'était inconfortable et incertain pour Philémon. Là, il reçoit une lettre de Paul qui lui demande d'accueillir et de pardonner un esclave qui lui a causé du tort. Et il lui demande non seulement ça, mais il lui demande aussi de le considérer comme son égal, comme son frère. Oui, le retour d'Onésime met à l'épreuve les trois relations, là, le triangle. Est-ce que ces relations vont résister? Mais toute cette lettre de Paul consiste à dire que l'inconfort, l'incertitude qu'il peut y avoir parfois dans notre marche chrétienne, lorsqu'on essaye d'avancer dans la providence de Dieu, ça vaut la peine. Et dans le cas présent, c'est le prix pour qu'il y ait une réconciliation. Peut-être que, effectivement, comme si je reviens encore au temps de l'apport de Brigitte plus tôt, peut-être que se mettre en route, peut-être que voilà, aller voir quelqu'un, commencer à en parler, demander un rendez-vous en chemin avec un des responsables de l'Église, ça peut créer de l'inconfort, de l'incertitude. En fait, on s'engage sur un chemin dont on ne sait pas forcément combien de temps il va prendre. Est-ce que Philémon a lu la lettre en disant « Ah mais oui, oh, extraordinaire, viens dans mes bras, Onésime !» Ou est-ce que ça a pris du temps en lui disant « Retourne dans le quartier des esclaves et on en rediscute ?» On ne sait pas. Mais quelle que soit la durée, quel que soit le chemin, nous pouvons avancer dans la confiance en Dieu, dans sa providence. Onésime, en marchant, a dû échafauder plein de scénarios sur la manière dont ça allait se passer. Il le connaissait, Philémon. Il connaissait son caractère, il connaissait peut-être les autres esclaves. Je pense que dans un des scénarios qu'il s'imaginait, il se disait « Bon ben, le plan de Paul va marcher, il va m'accueillir comme un frère, peut-être que ça va prendre du temps. » Je ne sais pas s'il s'est imaginé un scénario encore un peu plus positif pour lui. Est-ce que Philémon, maintenant qu'on est frère, est-ce qu'il ne va pas me rendre libre? Est-ce qu'il ne va pas m'affranchir? Et en reprenant le texte dans ce verset 21, lorsque Paul dit « Je t'adresse cette lettre avec la certitude que tu répondras à mon attente et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande. » Cette phrase-là, « Et même, je le sais, tu feras encore plus que je ne demande », quasiment tous les commentateurs de l'Épître aux Philémons disent que là, Paul, il laisse bien assez clairement sous-entendre à Philémon qu'il aimerait que Onésime soit libre, devienne un homme libre et retourne auprès de Paul pour l'aider. Et c'est ça le troisième changement qu'on va évoquer. Croire en Jésus, ça peut changer les structures mauvaises de la société. Car oui, l'esclavage est une structure mauvaise. L'esclavage est une structure de péché. La lettre de Philémon nous permet de voir comment Paul s'attaque à ces questions complexes de structure sociale. Et quand on aborde, c'est la dernière partie de cette prédication, quand on aborde ces questions-là, c'est important de prendre conscience que le texte qu'on est en train de lire, il a été écrit il y a 2000 ans. Il a été écrit dans une culture très différente de la nôtre. Déjà aujourd'hui, quand on voyage, Je regarde Christol, mais il y a d'autres personnes. Hein, quand on change comme ça de pays, il y a des chocs culturels. Donc là, imaginez un choc culturel lié à la distance et à la distance dans le temps aussi. Et cette distance, c'est souvent ce qui explique que parfois on est quand même un peu gêné hein, quand on lit certains versets des lettres de Paul, surtout quand il commence à parler de l'esclavage. Par exemple, dans la lettre à l'église de Colosse, voilà ce qu'il écrit. « Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. » Je vous rappelle que cette lettre aux Colossiens, il a été écrite en même temps que la lettre à Philémon. C'est-à-dire il y a les deux parchemins qui arrivent. Dans un parchemin, si tu es mon ami, libère Onésime. Et dans l'autre parchemin, les esclaves de l'Église, soyez de bons esclaves. Et au chapitre 4, au maître également, maître, traitez vos esclaves avec justice, d'une manière équitable, car vous savez que vous avez vous aussi un maître dans le ciel. Voilà, il y a des messages pour les deux. Mais il ne dit pas, esclaves, révoltez-vous, et maître, affranchissez vos esclaves. Comment est-ce que Paul peut écrire deux choses en apparence contradictoires, quasiment en même temps, dans deux lettres qui arrivent dans la même église? À la fois demander un changement pour Onésime et le statu quo quasiment pour le reste, pour les autres. En fait, je pense que voilà, ça nous remue un peu, hein, parce qu'on sait que l'esclavage, c'est en dehors de la volonté de Dieu. Et bien, je pense que ça démontre cette coexistence, la sagesse de l'apôtre Paul. Désolé, j'espère que je ne vous choque pas. Paul comprend que en 60, 62, 30 ans après la mort de Christ, il serait vain de se lancer dans une campagne publique de révolte contre l'esclavage, qui était une structure sociale profondément ancrée, qui était une des bases du fonctionnement de la société romaine. Il y avait des milliers de croyants, mais par rapport aux millions d'habitants de l'Empire romain, c'était pas le bon combat à ce moment-là. Et ça se serait sans doute retourné contre l'Église chrétienne, l'Église naissante. Mais pour autant, Paul affirme dans cette requête à Philémon que l'esclavage n'est pas compatible avec la foi chrétienne. L'esclavage n'a pas sa place entre deux frères en Christ, parce que la relation nouvelle en Christ, elle dépasse et elle abolit ce que les structures sociales ont mis en place. Il n'y a plus ni homme ni femme, ni esclave ni maître, ni juif ni grec. L'esclavage, c'est une forme de domination où un être humain possède un autre être humain. Et ça, entre frères, c'est impossible. C'est impossible. Et donc Paul, il coupe le nerf de l'esclavage. Il enlève ce qui fait sa force. Une autre image, ce serait de dire qu'il sape les fondations. Et ces fondations-là, elles vont ensuite forcément aller vers l'écroulement. Mais il le fait en commençant dans un espace particulier, dans un espace dont les membres sont appelés à vivre les enseignements de Jésus. Et cet espace, ça s'appelle l'Église. Il dit « Commençons déjà par vivre cela dans l'Église. » Donc Paul, il ne prend pas les habits d'un révolutionnaire qui lance une révolte, mais il subvertit au nom de Jésus les relations sociales mauvaises. Et c'est un changement qui va se faire petit à petit. C'est un changement qui va se faire à mesure que l'Église grandit, à mesure que l'Église se développe, que de plus en plus de personnes rejoignent cette famille de Dieu où les relations de frères et sœurs ne permettent pas qu'il y ait des relations d'esclavage. Et l'Église va jouer ce rôle de témoin dans la société romaine. Dans l'Église, on ne vit pas de la même manière les relations que dans la société. C'est la fraternité en Christ qui nous unit. Voilà, ça c'est un changement en profondeur. Mais c'est un changement qui prend du temps. On arrive au, au terme de cette méditation sur les changements apportés par la foi en Christ, nos relations, notre regard sur les circonstances difficiles et les structures mauvaises de la société. Trois changements qui n'interviennent pas au même rythme. Mais alors, est-ce que le changement, c'est maintenant avec Jésus? On a changé, pour tout changer. Oui, avec Jésus, le changement, c'est maintenant. Quand on devient enfant de Dieu, tout change. Mais les effets du changement peuvent être progressifs. Il y a un changement qui est immédiat, qui est instantané. C'est le fait d'être sauvé. C'est le fait qu'on est intégré dans la famille de Christ, qu'on devient frère et sœur. Il y a des changements qui peuvent prendre plus de temps, se lier à nos blessures, se lier à des relations difficiles. Et puis il y a des changements qui impliquent toute l'Église dans son ensemble, pas que l'Église de Vendôme, pas que moi, mais qui c'est des changements de l'impact de l'Église et de la foi chrétienne sur la société. Et dans ce processus, effectivement, il y a un combat spirituel aussi, et c'est une partie du retard, ça peut être lié aussi à notre propre résistance. Ça peut être lié aussi aux attaques du diable dont on a parlé dans la première partie. Mais ce n'est pas parce que les changements ne sont pas immédiats, qu'ils ne sont pas instantanés, qu'il faut se décourager. Est-ce qu'Onésime et Philémon se sont réconciliés? On ne sait pas. On l'espère tous. On peut l'imaginer, on peut le supposer, mais on ne peut pas en être certain. Est-ce que la foi chrétienne, l'exemple de l'Église, a permis d'être un témoin pour que l'esclavage disparaisse? Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à l'histoire, malheureusement, la réponse est non. Parce que le péché, l'aveuglement des chrétiens, ont repoussé de plusieurs centaines d'années la disparition de l'esclavage. Il y a eu des esclaves aux États-Unis, par exemple, jusqu'en 1865, défendus par des chrétiens, sur la base de textes bibliques. C'est une honte pour l'Église, ce qui a été annoncé, ce qui a été prêché, de défendre l'esclavage au nom de Christ. C'est une honte. Mais en même temps, c'est aussi au sein d'Églises chrétiennes que des voix se sont élevées, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, pour dénoncer l'esclavage comme une pratique incompatible avec la foi chrétienne. Ma prière pour nous ce matin, c'est que le changement, la transformation que Jésus opère dans nos cœurs, elle nous pousse à aller vers l'autre, à peut-être enclencher ce processus dans nos vies auquel nous ont invités ce matin Daniel et Brigitte, en comptant sur la providence de Dieu et qu'en étant unis en Église, on puisse être témoin au sein de la société pour vivre selon les lois du royaume de Dieu. Je vous invite à un court temps de silence et je terminerai par la prière. Oui, Seigneur Jésus, lorsque tu entres par ton Esprit Saint dans la vie de quelqu'un, tu transformes. Tu transformes en profondeur. Un nouveau statut se crée, une nouvelle relation se crée avec toi, mais aussi avec tous les autres disciples. Merci pour l'exemple de Philémon, d'Onésime et de Paul qui ont souhaité tirer les leçons de ce changement. Ne pas rester dans le statu quo, mais se mettre en route, même avec de l'inconfort, même avec de l'incertitude, mais en comptant sur toi, en sachant que dans ta providence, tu guides toutes choses. Seigneur, c'est ma prière pour nous ce matin aussi. Aide-nous à nous mettre en route, quelle que soit la difficulté que l'on rencontre, quels que soient nos défis. Aide-nous à nous mettre en route, à la manière d'Onésime. Ma prière, Seigneur, c'est aussi qu'en tant qu'Église, nous puissions être témoins, que nous puissions vivre selon les principes du royaume de Dieu entre nous, ici à Vendôme, mais aussi avec nos frères et sœurs des autres communautés. Et que l'Église, avec un grand E, l'Église universelle, soit témoin de ton amour, témoin de ton action dans la vie des humains. Que nous soyons dignes de l'appel que tu nous as lancé. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous manquons à ce témoignage. En parlant d'esclavage, on ne peut que regarder avec honte l'histoire de l'Église. Et Seigneur, nous te demandons de nous donner par ton esprit le discernement pour agir conformément à ce que tu attends de nous. Amen.